de Mestrine et des extraits trop bien d'un film tout pourri dont on ne se souvient pas du tout du nom. Et là, tout de suite, là, tu peux entendre le groupe Justice. Bon, comme d'hab, c'est de l'électro, c'est Luigi, hein. Mais je rappelle, hein, je suis pas l'accusé. Mayday, c'est collectif. Si, si, moi, je suis juste un représentant. Nous, on fonctionne en autogestion, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Et bientôt, vous pouvez entendre le Canu Info sur Mayday à Radio Canu, enfin, le dimanche à 22h50.
Attends, le Canu Info, c'est pas du tout sur Mayday. Canu Info, c'est tout seul. Et c'est maintenant.
Quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir?
The Cure? J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu.
Les Canu Info,
Canu Info
du mercredi.
Il est 19h04, nous rentrons tout juste dans le studio, le claquement de porte caractéristique vous annonce ça. Et de quoi va-t-on parler ce soir?
Alors, ce soir, vous m'entendez?
Ce soir, on t'entend pas, non.
Ah, ben moi je m'entends.
Là c'est bon.
C'est déjà bien. Alors, ce soir, après une petite série de brèves, on va parler de la vie des riches qui est dure.
Ensuite, on va parler de Tahabouaf.
Et puis, Sénégal, colère et répression.
Après, ce sera le moment de la petite pause musicale. Et on parlera de l'accident de scooter d'un ado qui a eu lieu à la Duchère. Vous en avez sûrement dû en entendre parler. Et on parlera des suites probables ou hypothétiques à la suite d'un rapport de l'IGPN.
Alors, pas un rapport, une enquête. Le Conseil de l'Europe accuse des États membres de laisser mourir les migrants en Méditerranée. C'est l'Europe qui accuse l'Europe.
Et ensuite, on conclura par des patients Covid en état critique qui vont être transférés en Belgique. Et on va commencer après par des petites brèves. Et le CD saute.
Radio Canu. 102.2.
La plus rebelle des radios.
Info.
Et on va commencer par une petite brève sur le travail en prison. Alors les détenus travaillent en prison, c'est pas nouveau, mais ce qui risque de changer en revanche, c'est que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a annoncé récemment vouloir mettre en place une forme de contrat de travail pour les détenus, leurs conditions d'exploitation n'étant pour l'instant réglées que par ce qu'on appelle un acte d'engagement, qui laisse la place à l'arbitraire le plus total en termes de rémunération, de conditions de travail ou de sécurité. Alors, comme nous le rappelle l'OIP, là, l'Observatoire international des prisons, c'est un document qui est censé prévoir la description du poste de travail, le régime de travail, les horaires de travail et les missions principales à réaliser, les risques particuliers liés au poste, et puis qui doit également indiquer les conditions de rémunération. Donc, c'est pas un salaire, hein. En pratique, ces actes d'engagement sont souvent rédigés dans des termes flous, ce qui n'accorde qu'une très faible protection juridique aux personnes détenues. Et il y a d'ailleurs, une sorte de contrat qui n'autorise ni droit d'action collective, ni droit à représentation collective, et qui peuvent donc, les détenus qui peuvent donc, en signant ce papier, ni se constituer en syndicat, ni faire grève, ni participer à un comité social et économique. Alors reste que quand Dupond-Moretti parle de, je cite, « revaloriser le travail en prison », il s'agit surtout en fait de le rendre attractif pour les patrons. Ses conseillers expliquent déjà qu'il ne faudrait surtout pas que le versement d'un salaire soit un, je cite, « repoussoir » pour les entreprises. Alors, ces propositions émergent alors que les détenus, leur entourage, les assos, bah, par exemple l'Observatoire national des prisons, alertent depuis longtemps sur la nécessité de faire cesser l'exploitation des détenus. C'est un avant-projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Tout un programme, cette loi qui
nous attend. À chaque fois que ce gouvernement fait une loi pour la confiance dans quelque chose, c'est toujours un truc dégueulasse.
C'est assez mauvais signe, ouais, la confiance. Alors, il doit être présenté en Conseil des ministres mi-avril. C'est un texte qui prévoit également que le gouvernement puisse légiférer par ordonnance pour permettre l'ouverture des droits sociaux aux personnes détenues dès lors qu'ils sont utiles à leur réinsertion, et notamment les droits à l'assurance chômage, vieillesse, maladie, maternité, maladie professionnelle, accident du travail, ce qui est actuellement pas le cas. Donc, affaire à suivre, on verra comme toutes les bonnes lois de confiance ce qu'elle deviendra.
Canu Info du mercredi.
Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui écoutent Radio Canu depuis déjà quelque chose comme 1h30 ce matin, mais alors si oui, vous avez dû vous rendre compte qu'aujourd'hui, c'est particulièrement rock'n'roll.
Autant dire, ça déconne en technique. Quoi.
C'est à peu près ça, oui. Mais c'est le matériel.
Oui, c'est le matériel.
Attention. Alors maintenant, une petite brève. Alors uniquement pour les gens qui kiffent les embrouilles débiles entre le personnel politique et les petites histoires de la démocratie représentative. Puisque ma brève s'intitule « Législative 2022 », Richard Ferrand craint qu'il ne soit trop tard pour mettre en place la proportionnelle. Bon, alors pour expliquer, moi, alors vite fait, hein, parce que la proportionnelle, c'est une manière de compter les votes qui permettrait aux partis qui n'ont nulle part assez de voix pour faire élire un député, c'est-à-dire que dans chaque circonscription, dans toutes les circonscriptions, ils sont minoritaires, mais qui ont quand même pas mal, finalement, de voix un peu partout. C'est-à-dire que si on fait nationalement, ils ont quand même un pourcentage pas complètement négligeable. Dans ce cas, eh ben, ils auraient quand même, d'une manière ou d'une autre, des représentants. En gros, c'est un truc qui est bon pour les partis d'opposition. C'est typiquement le truc que le Rassemblement national demande tout le temps, parce qu'ils arrivent à faire élire très peu de députés, mais comme malgré tout, il y a une vingtaine de pourcents de personnes qui votent pour eux, eh ben, s'il y avait la proportionnelle, ils auraient du monde à l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tous les partis sont pour la proportionnelle quand ils sont dans l'opposition. Mais quand ces mêmes partis arrivent au gouvernement, ils ont toujours autre chose à foutre que de s'y mettre tout de suite. Et tiens, justement, le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, de La République En Marche, craint qu'il ne soit trop tard pour mettre en place la proportionnelle aux législatives 2022, a-t-il indiqué ce mercredi. Alors que le MoDem, par ailleurs, fait pression au sein de la majorité. J'ai toujours indiqué que j'étais favorable à une dose de proportionnelle. Les gens disent toujours une dose de proportionnelle. Mais faut-il le faire maintenant? Je pense que si on avait dû le faire, on aurait dû le faire un peu plus tôt. Ouh là 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 là, qui c'est qui va faire la gueule? C'est Bayrou. Parce que lui, déjà qu'il avait été viré de son poste de ministre à l'époque où Macron voulait personne dans le gouvernement qui ait des ennuis avec la justice. Alors bon, bien sûr, maintenant que la moitié des ministres sont poursuivis, alors soit pour avoir tapé dans la caisse, soit pour des histoires d'agression sexuelle. Donc déjà, Bayrou, là, il doit commencer à faire « Oh, on s'est bien foutu de ma gueule ». En plus, maintenant, le pauvre Bayrou, on va encore lui zapper la promesse de Macron qui l'intéressait le plus, celle de la proportionnelle, qui lui aurait peut-être permis d'envoyer un jour quelques centristes à l'Assemblée nationale. Et bien alors, Bayrou, il va être colère, colère.
Canu Info.
La direction de l'usine d'engrais Maxamtan de Mazingarbé, près de Lens, donc c'est dans le Pas-de-Calais, a laissé à l'abandon son site et puis 74 salariés, seuls avec une cuve remplie de 750 tonnes d'ammoniac, un produit un peu toxique et un peu dangereux. Cette cuve d'ammoniac qui doit être vidée selon un protocole strict que seuls les employés de cette usine donc maîtrisent. Cette sphère, je les cite, n'est pas une bombe, mais c'est hautement toxique. On ne peut pas tuer on peut tuer des gens à des kilomètres à la ronde. Donc ils ont une bombe entre les mains et on va voir en quoi c'est intéressant après. Chaque jour, les salariés veillent sur le gaz liquéfié dans cette cuve arrondie. Je les cite encore, le danger, c'est la montée en pression de l'ammoniac. En cas de fuite, il y a un risque de nuage toxique. Alors, on nous parle notamment de la directrice adjointe qui est restée et qui essaye d'animer son équipe, même si les motivations sont au plus bas, puisque, je la cite encore, la direction a posé les clés et a dit « débrouillez-vous ». Les salariés continuent de percevoir leur salaire, mais les réunions autour du plan de sauvegarde de l'emploi n'avancent pas. Seveso pratique la politique de la chaise vide et ordonne tout de même à ces mêmes salariés de tout remettre en ordre et de laisser le site intact. Alors, Seveso, groupe d'Espagnols explosifs d'engrais qui emploie à peu près 6500 personnes à travers le monde, avait racheté l'usine à Total en 2011. Elle est en liquidation judiciaire, laissant donc des sols extrêmement pollués. Et puis, du côté des collectivités territoriales, on s'en inquiète aussi et on tique un peu, puisque la sénatrice du Pas-de-Calais dénonce dans une lettre à l'Élysée ces deux points clés qui demeurent non résolus et qui sont assez incompatibles entre le PSE et les indemnités dévolues aux salariés. Et puis, donc ils peuvent le scénario, c'est que ce qu'ils craignent, en tout cas les collectivités territoriales, c'est quand même que les 10 salariés se mettent en colère et refusent de faire ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire de rendre le site propre. Voilà, puisque l'autre point clé qu'elle dénonce, c'est la mise en sécurité du site conformément au code de l'environnement. La ministre déléguée à l'industrie dénonce après coup, je cite, le refus de Maxam Corp de participer de manière constructive au dialogue et explique que c'est de la responsabilité des entreprises qui devraient être plus environnementales et sociales.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Ah, et vous allez voir que c'est pas facile d'être riche, en tout cas cette semaine, c'était plutôt compliqué. Cette semaine a été émaillée de deux fausses bonnes nouvelles, hein, parce que vous allez voir que ça change pas grand-chose. La première étant la mort d'Olivier Dassault, fils de feu Serge Dassault, mort dans le crash de son hélicoptère personnel. Alors pour rappel, hein, il était député juste avant de mourir, mais a su habilement passer de la politique aux affaires et des affaires à la politique, tout comme son père, avec un habile mélange des deux. Il est passé par une bonne partie des sociétés du groupe Dassault. Il est passé par la vice-présidence du groupe de presse Valmonde, qui est propriétaire, entre autres, de Valeurs Actuelles. Puis par le conseil de surveillance du groupe Dassault. Alors là, c'est le truc qui chapeaute un peu tout. Poste qu'il a dû quitter en raison de possibles conflits d'intérêts avec son mandat de député. Il a été également adjoint à la mairie de Paris. Il s'est présenté sur des listes du RPR. Bref, un digne héritier de son père. Pour rappel, hein, quand même, le groupe Dassault, c'est Dassault Aviation. On leur doit le Rafale, le Mirage 2000, une pléthore de drones. Bref, la guerre pour eux, c'est du pognon. C'est aussi un groupe de presse, Figaro Group, un domaine viticole, etc., etc. Alors, si le sort tragique d'Olivier a été de mourir sous le poids de sa fortune incarnée dans un hélicoptère privé, il n'a malheureusement pas emporté dans sa chute tout le groupe fortuné qui porte son nom et qui distribue la mort aux quatre coins de la planète. Et tant qu'on en est à parler des plus fortunés, une étude menée par la DRIS, qui n'est d'autre que la Direction de la Recherche des Études et de l'Évaluation, et des Statistiques, bref, autant vous dire, des gens qui doivent se marrer tous les jours, montre que les 10% des Français et Françaises les plus riches ont deux fois plus de chances de contracter le virus que les classes moyennes. Alors, quand on dit contracter, c'est vraiment juste d'avoir le Covid. Hein. Ils n'ont pas plus de chances de mourir du Covid, comme vous pouvez l'imaginer. Et bien sûr, ils s'en sortent beaucoup mieux que les classes populaires qui, elles, sont touchées de manière extrêmement brutale par la pandémie, que ce soit pour des raisons médicales ou sociales. Alors, une des explications... Et là, on rigole jaune, c'est que bah, quand on fait partie un peu du haut du panier de la société, hein, et ben, on a une vie sociale beaucoup plus riche. C'est-à-dire qu'on connaît plein de gens, on est amené à croiser plein de monde, que ce soit dans son travail, dans ses relations un peu sur les à-côtés du travail, sur ses relations amicales et familiales.
Alors c'est même un peu le principe, c'est d'avoir des relations.
Oui, ça. Ah putain, toi, tu connais un peu les combines quoi, du milieu.
Il n'y a aucun secret.
Et donc voilà, et bien sûr quand on a un paquet de pognon, on vit quand même dans des endroits plus grands. Et alors on pourrait se dire que quand on vit dans des endroits plus grands, et ben on est moins susceptible de contracter le virus que quand on vit à 5 dans 60 mètres carrés, voire moins. Et ben en fait ça fait quand même les classes populaires, bah, certes elles vivent dans des plus petits endroits à plus nombreux, mais elles rencontrent moins de gens, du coup elles auront moins de chances d'avoir de vecteurs contaminants, vous voyez. Et puis quand on a un grand salon, et ben on se dit plus facilement qu'on va recevoir du monde en respectant les distanciations sociales. Bref, on fait des entorses et on s'en tire un peu mieux.
Quand on a un petit salon, on fait des entorses à l'extérieur et finalement c'est moins risqué.
Oui, tout à fait. Et en tout cas, dans tous les cas, on a plus l'impression de faire une entorse, du coup on va plus faire gaffe. Eux vont se dire que bon bah au final c'est quand même pas grand chose. Hein. On reçoit des amis à dîner, on mettra un mètre ou deux mètres entre chaque personne, parce que de toute façon notre salon est assez grand et on a même la table pour recevoir assez suffisamment de monde. Autre facteur contaminant, c'est le recours au petit personnel. Alors ça, bon. Direct, ça ne concerne pas du tout hein, les classes populaires. Alors même que les plus riches occupent des emplois où la part de télétravail est supérieure, et ben le fait de partager son domicile avec la nounou ou la femme de ménage augmente le risque de contamination. Bref, les 10% les plus riches hein, se retrouvent donc super contaminateurs sans avoir à subir les conséquences sanitaires et économiques de cette crise. Et je parie même que sur leur table de chevet, il y a le magazine qui titre actuellement du Figaro Magazine, je cite, « Immobilier, placement, comment tirer profit de la crise ?»
Radio Canu 102.2
Rebelle des radios. Canu Info.
Tahar Bouaf a comparu ce matin devant la 11e chambre du tribunal judiciaire pour outrage et rébellion envers une personne dépositaire de l'autorité publique. Alors Tahar Bouaf, c'est ce journaliste qui bosse en particulier pour Là-bas si j'y suis et dont on entend parfois le nom généralement en lien avec des embrouilles avec les flics, vous voyez, un peu à la David Dufresne. C'est lui aussi qui avait fait le petit bout de film où on voit Alexandre Benalla choper un manifestant le fameux 1er mai 2017. Bref, le 11 juin 2019, Tahar Bouaf filme avec son téléphone une manifestation de travailleurs sans papier devant la société Chronopost à Alfortville. Pendant qu'il filme, il y a une sorte d'embrouille avec un type qui est là. Mais le type en question est un flic en civil, s'avère être un flic en civil. Et le journaliste se retrouve plaqué au sol, interpellé. Bon, dans la foulée, une épaule déboîtée, 10 jours d'incapacité de travail. Le flic prétend avoir été traité de racaille de flic.
Alors ça
Ça, Alors, pour une meilleure compréhension, il faut savoir que le téléphone de Tahabouaf, qui contenait la vidéo de l'interpellation, a été confisqué par les flics. Par la suite, alors que la restitution du portable avait été approuvée par un juge, le greffe a refusé de le lui remettre pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Et en tout, il a fallu attendre 8 mois pour qu'il récupère son téléphone. Mais malgré tout, ça a été avant le procès. Et c'est la vidéo qui était dans le téléphone qui permet maintenant à l'avocat de poser les questions auxquelles j'ai arrivé, puisque sans cette vidéo, les faits sur lesquels l'avocat s'appuie auraient pu être contestés et auraient en fait assez vraisemblablement été contestés par le flic. La suite, écoutez, c'est pas vraiment sur un site anarcho-syndicaliste que je l'ai trouvé, c'est tout bêtement dans 20 minutes. Et alors voilà comment 20 minutes nous raconte l'avocat de Tahabouaf qui parle à l'audience et qui demande ceci. Pourquoi le fonctionnaire de police s'est-il mis à tutoyer Tahabouaf lors de l'interpellation ? Parce que c'était un jeune local. Ça veut dire quoi, un jeune local ? Pourquoi aussi le policier ne portait-il ni brassard de police, ni uniforme, ni matricule ? Un simple oubli ? Pourquoi les faits figurant au procès-verbal rédigé par le policier ne correspondent pas à ceux que l'on voit sur les vidéos ? Pourquoi la brigade anticriminalité utilise-t-elle toujours l'expression de « deux types nord-africains » pour désigner un individu suspect ? Pourquoi ? Une dizaine d'interrogations qui ont finalement suffi, c'est toujours 20 minutes, qui ont finalement suffi pour entraîner une étrange inversion des rôles, comme si la victime n'était pas celle qu'on croyait, et que, dans une parfaite asymétrie, le prévenu non plus. De fait, Tahabouaf n'a passé qu'un petit quart d'heure assez tranquille à la barre, quand Maxime Demers, le baqueux, a peiné pendant plus d'une heure sur le grill. C'est sans doute pour cela qu'il a fini par lâcher la phrase de trop. Je comprends même pas qu'on doive se justifier et s'expliquer autant sur le fond et la forme. Ça me dépasse un peu. Je dois dire que dans ma carrière, j'ai fait des choses bien plus graves. Et j'ai pas dû me justifier pour autant. Je continue avec 20 minutes, hein, je lis l'article de 20 minutes. Droit comme un i à la barre, il a alors dû se rendre compte qu'il avait poussé le bouchon un peu trop loin, car quelques minutes plus tard, il a décidé de ne plus répondre aux questions, comme la procédure le dit.
Fermé sous le conseil de son avocat.
Son avocat qui, pour le coup, là, j'ai pas recopié tout l'article, hein, mais son avocat qui, semble-t-il, a beaucoup peiné à rattraper les réponses de son client derrière. Bon, tout ça n'a pas empêché le proc de demander malgré tout 700 € d'amende pour Tahabouaf. On verra ce que le juge en pense. Verdict le 11 mai.
Canu Info.
Au Sénégal, l'arrestation pour une affaire de viol le 3 mars de Ousmane Sanko, opposant au président Macky Sall. Ousmane Sanko, donc, son arrestation qui a déclenché des manifestations dans toutes les villes du pays, alors à Dakar évidemment, et puis dans d'autres villes un peu moins importantes aussi. Alors c'est une arrestation qui a été contestée par son parti, notamment puisque, par le parti d'Ousmane Sanko, puisqu'elle serait peut-être une manipulation du pouvoir en place. Ousmane Sanko se dit, alors il se dit ça, c'est lui-même qui dit ça, donc c'est à prendre avec des pincettes, d'un complot pour l'écarter de la compétition politique, comme l'ont été, alors là par contre c'est pas lui qui le dit, c'est l'histoire récente qui nous le dit, puisque juste avant lui, Karim Ouad et Khalifa Sall, notamment pendant la campagne présidentielle d'il y a 2 ans, ont été gentiment aussi écartés par quelques affaires personnelles qui tombaient bien. Alors, outre ces rangs politiques qui ont été mobilisés pour le défendre, s'est ajouté, et c'est là que c'est un peu plus surprenant, la colère d'une frange bien plus large de la jeunesse qui a été également émoussée par les privations imposées au nom de la pandémie de Covid-19 et donc qui ont fait se révolter tout particulièrement les jeunes. La mobilisation s'est nourrie du coup de revendications économiques et sociales, le rejet du couvre-feu qui pèse par exemple lourdement sur le secteur informel, l'explosion du chômage, la crise des institutions démocratiques. Le pouvoir a brutalement réprimé, la police qui a été épaulée par l'armée et puis par des hommes de main du pouvoir a tué 5 manifestants au moins, peut-être 11 selon le collectif de contestation. Les médias proches de l'opposition ainsi qu'Internet ont été bridés. Le hashtag Free Sénégal a émergé sur les réseaux sociaux pour protester contre la répression et la censure de certaines applications et chaînes de télévision. Les médias publics qui sont en fait à la botte du pouvoir de Macky Sall, notamment la RTS, Radio-Télévision Sénégalaise, étaient confiés à un responsable de son parti, Racine Talla, qui utilise cet organe comme un instrument de propagande au service du régime. La RTS, donc, elle n'a pas couvert les événements de ces derniers jours. Les partis de l'opposition n'ont pas accès à la RTS, donc ils n'ont pas pu en parler non plus. Et puis tout ça, c'est en violation flagrante de la loi, puisque il y a quand même une loi qui encadre l'audio et la télévision. Le Conseil national de la régulation de l'audiovisuel, le CNRA, donc, n'est pas intervenu, alors qu'il s'est montré prompt à couper le signal de deux télévisions privées, Walf TV et SEN TV, pour une durée de 72 heures, au motif justement qu'elles diffusaient en direct les manifestations. Alors, au-delà du régime, les manifestants et manifestantes mettent en cause la France, qui exerce toujours sa tutelle sur la région et qui soutient activement le pouvoir sénégalais. Depuis son premier mandat, Macky Sall le lui rend bien, puisqu'il cumule les courbettes à l'ancienne puissance coloniale. Alors, par exemple, Auchan, Total, une vingtaine de supermarchés emblèmes de la présence française ont été pillés. Quelques-uns incendiés pour exprimer un ras-le-bol de la politique néocolonialiste qui est menée depuis plusieurs années, et notamment sous le mandat de Macky Sall. La répression a fusé. Certains et certaines manifestantes ont été victimes d'arrestations préventives qui sont arbitraires au regard de la loi, puisque c'était à chaque fois en l'absence de faits avérés qui démontraient une infraction quelconque. Ousmane Sanko est relâché, mais il est désormais accusé, indépendamment de cette affaire de viol, qu'elle soit avérée ou non, il est maintenant accusé d'appel à l'insurrection et de troubles à l'ordre public. Alors lundi, donc Ousmane Sanko a été remis en liberté, sous contrôle judiciaire, et lundi soir, Macky Sall a tenu à s'adresser aux jeunes sur le thème du, je cite, « vivre ensemble ». C'est un bel euphémisme. Et donc il a proposé une main tendue en disant, je cite, « je comprends vos inquiétudes et vos préoccupations ». Il parlait notamment du couvre-feu qui affecte durement ceux qui travaillent dans l'économie informelle, et il promet de réorienter les moyens financiers en direction de la jeunesse. Bon, autant dire qu'il a tapé à côté de la plaque, et que le couvre-feu c'est aussi un catalyseur pour des douleurs un peu plus profondes, quoi. Alors hier, les blindés de l'armée restaient positionnés au quartier du Plateau, donc c'est le centre du pouvoir, siège des multinationales, notamment françaises ou franco-sénégalaises, à Dakar. Et un nouvel appel à manifester est lancé pour samedi prochain par le mouvement de défense de la démocratie M2D, qui a été créé donc la semaine dernière après l'arrestation de Ousmane Sanko, qui comprend son parti, des partis d'opposition, des organisations contestataires, et qui a donc suspendu les manifestations hier, aujourd'hui, et qui appelle à une journée de deuil national vendredi, et à de nouvelles manifestations samedi, notamment pour obtenir la libération des militants et militantes emprisonnés. Et on va clôturer ce sujet-là avec une petite pause musicale d'un rappeur sénégalais qui s'appelle Deep Doundou Guiss, et qui a composé une chanson certainement la semaine dernière, ou alors elle était presque prête et il a mis la note finale avec quelques formules un peu prises sur le tas, et il en a fait un clip qu'il a tourné pendant les manifestations. Suñu ay rap ñoo fi nek suñu ay mak ñoo fi nek suñu ay chamine ñoo fi nek Sénégal ben bokk la kenn mënu ko xar ñaar bu ko dëkk dafay joy master ñu dafay ñaaw lu tollox ñetti fana ngi ni lu tollox ñetti fana ngi ni ñu ngi jamarlo ak xare yi alors xolam mo fess dëkk ci dëkk ñittu fitna sonu di wax yeen ñepp yam kif kif la 69 lima ci gëna metti di gis boy di dé
rewmiñi ko fi jité yépay roy li ci fer nacc ba ciowli di jeex suñu rongoñu du fer nacc bu dem jant bi fek ñolo folli bul reuy gaddu sa col di tuité suñu jabol bi di dé mënuñu tok di muñ rek di len xol ñu ñuy reuy nawu mo politicien duma politique man kuy tankam lu kilifa diiné dumay wax lu muy dégg suba yaaru sa netalé say dom suñu tay ndaw yi prison lañuy xey sa école lañuy gëj ndox bi jox nga ko macron mol du jaw bu gis jeun police ar lañ ko santon tay ñuy dorniti gën mère bu si ñak sa dom yu xu woy fuñu jëm xex bi ñepp si d'accord ndax ñom yoon bu ñu jël mënon nañ la denk kasso bañ la jox suñu dëkk palay moy denc sacc rebeus tej ñi ci dëgg du med ngeen ñu fokk me nerve rek du doy bamel du teeku deedi dox na lert ci seeni nopp beut bu rusul toj loy day jaamu rew bu mënul dox jaay suñu pétrole bu ñuy sangu ñuy gën wuti ndox tal suñu alal bu ñu fippo nga gën tukki daw jang am diplôme mais jaratul mais dem di wuti job ku febar denga hôpitaux yi amul gaz loy jël ci ku jaay sa mami da fay lew ni Auchan tiaga duñ ko nax ñaari yoon duñ la jox 3e chance doyna deret tu badolo dotul cimetière France deret di touru mo gën drapeau bi di ciubu rew may meus nguru dañuy fenn ñi lay du nguru gëmal yalla te dem sa lënd may da fa leer jarul nga ñi téré marché parce que jaay nga sa rew do ko ñi jangal ni ñi raxa so xam nañ say loxo setul taxaw leen di jog politicien balit sax da ko xeexlu Macky Idi Niass tank demo leen abal ñu match bi du tass ñu bañ dëkk bi taggé gën di sacc ci bir mbass bu ci sa dom déwon yemalé nga ko fi bu yaak faté le 23 juin tax nga fogon ni li du am ni la won ba soppi di dem ñu xar ku ñu soppi système jeunesse bi fort musique fait ci borom gox bi système délay diñu gëlemal suñu kom kom di ci dem wax ma luñu def ci mbey mi tous ces hommes cultivés ni dess ci kasso bi xéxaluñ sen bop bu yamon ci déw ak dundu ba tay duñ xéx ak sen ngor lu way di def bëss dina wad sa kaw lu way di def bëss dina wad sa kaw right
Alors peut-être avez-vous suivi jeudi, vendredi, samedi dernier, il y a eu des affrontements avec les flics autour de Lyon, à La Duchère, à Rieux, à Bron. La cause, c'était un accident grave. Un jeune qui est tombé en scooter et qui a donc été gravement blessé. D'après un certain nombre de témoins, ça serait une voiture de flic en civil qui l'aurait pare-choqué, comme on dit dans le jargon des flics. Le parquet de Lyon a annoncé aujourd'hui l'ouverture d'une information judiciaire pour faire toute la lumière sur cette histoire d'accident. Procédure pour blessure involontaire ayant entraîné une ITT supérieure à 3 mois, aggravée par un délit de fuite et de non-assistance à personne en danger, puisque s'il y a eu une voiture, elle a fait tomber le scooter, le gamin s'est cassé la gueule, il n'avait pas de casque, et la voiture s'est barrée. Une enquête a donc été lancée, destinée à éclaircir les circonstances de la chute du collégien. La préfecture, elle, dément formellement la présence d'une voiture de flics sur les lieux, bien sûr. C'est l'IGPN qui est chargé de l'enquête, puisque ça serait des flics qui seraient en jeu. Et les premières investigations de l'IGPN ont permis de recueillir des témoignages qui s'avèrent contradictoires, indique le parquet aujourd'hui. Certains de ces témoignages évoquant l'implication d'un véhicule dans la survenance de l'accident, d'autres faisant état d'une chute ne résultant pas d'une intervention d'un véhicule tiers. Ce sont donc ces versions contradictoires et la nécessité de poursuivre l'enquête qui ont conduit le procureur de la République à ouvrir cette information judiciaire. Alors moi, je sais bien sûr pas du tout s'il y avait une voiture là à ce moment-là, et je sais encore moins si cette voiture a existé, si ça pouvait être une voiture de flic. Par contre, je sais pas, mais j'ai comme l'impression d'avoir par contre une petite idée de la conclusion à laquelle aboutira l'IGPN à la fin de cette enquête.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Et on va faire un tour du côté du Conseil de l'Europe. Et la conseillère aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe n'y va pas par quatre chemins pour accuser les États européens de laisser mourir les migrants en Méditerranée. Elle dit, je cite, « La réponse de l'Europe est l'un des exemples les plus flagrants de la façon dont les mauvaises politiques migratoires portent atteinte aux droits humains et coûtent la vie à des milliers d'êtres humains. Pour la Commission, les pays européens ne protègent pas les réfugiés et les migrants qui tentent de rejoindre l'Europe en traversant la Méditerranée. Ce recul de la protection des vies et des droits des réfugiés et des migrants s'aggrave cause chaque année des milliers de morts qui pourraient être évitées. » Alors tout ça, si vous nous écoutez, c'est des choses qu'on dit régulièrement, mais quand ça vient du Conseil de l'Europe, ça a une autre portée médiatique et une autre portée politique, en tout cas on l'espère. Le rapport pointe du doigt le manque de volonté des États membres d'établir des politiques de protection des migrants. Pour eux, un seul constat, la situation déjà alarmante en Méditerranée ne fait que de se détériorer d'année en année et comme conséquence de nombreux décès en Méditerranée. Entre juin 2019 et fin 2020, plus de 2700 personnes sont mortes et ont été comptabilisées par l'OIM. Le rapport précise que ce chiffre est largement sous-estimé du fait qu'on imagine assez facilement qu'il y a tout un tas de personnes qui sont mortes noyées sans qu'on les ait repérées avant. Et depuis le début de l'année 2021, plus de 250 personnes sont mortes noyées en mer Méditerranée. Pour le Conseil, plusieurs raisons à cela. Le retrait progressif des navires affrétés par les États. On se souvient, avant, il y avait cette opération qui s'appelait l'opération Mare Nostrum, qui affrétait des navires militaires à la surveillance de ce qui se passait en Méditerranée et qui secourait les canaux en péril. Donc ça a été arrêté et c'est les ONG qui ont pris le relais. Du coup, il y a donc ce retrait progressif qui est mis en cause et les croisades menées par l'Italie contre les navires des ONG bloquant les bateaux à quai. Et on peut dire juste en parenthèse sur ce point que, par exemple, quand même, actuellement, les ONG montent un peu au créneau là-dessus parce qu'il y a quand même... Le MSF qui est accusé de complicité avec les passeurs par le gouvernement italien, enfin en tout cas par un procureur italien, et à cause d'une vidéo qui était sortie en 2017, vidéo qui a été tournée par deux anciens policiers proches de la droite identitaire italienne qui étaient présents sur le bateau et qui s'étaient infiltrés sur le bateau. Et en gros, ils avaient filmé un truc et ils l'avaient un peu sorti de leur contexte, ils avaient donné une explication comme quoi MSF collaborait avec les passeurs. Ça leur a valu une enquête et des poursuites judiciaires. Des accusations de déchets camouflés contre Médecins Sans Frontières également. Donc là, ils auraient... on ne va pas rentrer dans les détails, mais bref, c'est encore un espèce de truc qui bloque le bateau des MSF à quai. Et on en parlait la semaine dernière, et de l'ONG Méditerranéa qui affrète le navire Mare Jonio, qui est accusé de corruption pour avoir reçu un chèque de 125 000 euros du géant danois de transport maritime, du bateau qui était resté bloqué en mer longtemps. Bref, donc l'Italie y va fort sur là-dessus. Le rapport accuse également l'approche des États qui consiste encore à limiter le travail des ONG, comme on en parlait, plutôt que de considérer qu'elles comblent les lacunes laissées par leur propre désengagement, avec comme seul but de laisser gérer la situation par les gardes-côtes libyens, malgré les graves violations de droits humains qui y sont commises contre les migrants. Et alors, Dunja Mijatović, de conclure, il est grand temps que les pays européens mettent fin à cette tragédie honteuse et adoptent des politiques migratoires respectueuses des droits de l'homme. C'est maintenant que les États membres doivent agir pour sauver des vies. Il s'agit là d'une question de vie ou de mort, mais aussi de la crédibilité de l'engagement des pays européens à l'égard des droits de l'homme. Alors, pour situer, le Conseil de l'Europe n'a pas de pouvoir contraignant sur les États membres, malheureusement. Et ces recommandations, si elles ne sont pas suivies... mais en tout cas, le Conseil de l'Europe peut émettre des recommandations. Donc là, c'est juste un rapport, ce n'est pas des recommandations. Et des recommandations qui, si elles ne sont pas suivies des faits, elles peuvent être poursuivies par la Cour européenne des droits de l'homme, qui est un peu son espèce de bras droit judiciaire. Par deux ONG et on espère en tout cas que ça va pouvoir un peu orienter le résultat du procès qu'avait essayé de monter l'ONG Sea-Watch contre la Cour européenne des droits de l'homme sur, justement pour éviter ces blocages intempestifs de bateaux par les autorités italiennes. Bref, affaire à suivre.
Radio Canu. 89.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Coronavirus dans le Nord, des patients Covid-19 en état critique vont être transférés en Belgique. L'Agence régionale de santé des Hauts-de-France compte sur les hôpitaux belges pour désengorger les établissements de la région. C'est un titre que j'ai trouvé dans la presse. Je n'ai même pas lu l'article en entier. Avant-hier, on apprenait aussi que... on fait ce qu'on peut, puis on est pressé à 19h, moins pas grand-chose. Avant-hier, on apprenait aussi que l'ARS d'Île-de-France avait réclamé la déprogrammation de 40% des opérations non urgentes en Île-de-France parce qu'il n'y avait pas assez de place dans les hôpitaux en réanimation pour les patients Covid. Donc 40% des opérations, dégagées, on vous fera plus tard. Les soins non urgents, les opérations non urgentes, ça ne veut pas tout à fait dire que c'est des opérations superflues. Hein. Pour certaines des patients, patientes déprogrammées, ce retard d'opération peut être quand même des fois carrément dangereux. Rappelons à toutes fins utiles aussi que ça fait plus d'un an que l'épidémie dure, que ça fait pile un an qu'on vit officiellement en état d'urgence sanitaire, que la première, la deuxième, la troisième vague ont été amplement prévues, annoncées, qu'on a eu le temps de s'y préparer, vous, moi, mais aussi les ARS, aussi le ministère de la Santé. Et maintenant, rappelons qu'on en a déjà parlé il y a 3 semaines, un petit article dans le Canard Enchaîné qui nous disait que, en un an, pas un lit pérenne n'a été créé et pas un médecin supplémentaire n'a été formé en réanimation. Que les lits supplémentaires pendant le pic de Covid sont tous obtenus en déprogrammant d'autres patients et patientes. Tous, toujours. Que 500 à 600 lits de réanimation étaient déjà fermés faute de médecins suffisants avant la crise du Covid et que les services tournent avec des intérimaires. Que Castex a déclaré à Ouest-France début février... Faut-il dimensionner les services de réanimation en fonction d'une crise qui survient une fois par siècle ? Je ne crois pas. Que la France compte 7 lits de réanimation pour 100 000 habitants. En Angleterre, c'est 10 lits pour la même proportion. En Espagne, c'est aussi 10 lits. En Allemagne, c'est 24 lits pour 100 000 habitants. En France, donc, c'est 7, on a dit. Voilà, le Canard avait pris ces infos auprès du syndicat des médecins réanimateurs. Mais en gros, ces infos regroupent de toute façon des infos qu'on trouve un peu partout dans la presse sur ce truc des lits qui n'ont pas été créés et même des lits qu'on a continué à fermer depuis un an. Un recensement précis des fermetures de lits a par exemple été fait par Bastamag, mais il y a aussi eu des articles dans la presse généraliste, du plus de références comme Le Monde, au moins suspects de complaisance avec l'extrême gauche, comme Le Figaro, on trouve des articles sur ces fermetures de lits. Et ne rappelons par contre même pas, surtout pas, les promesses du président ou du ministre au printemps dernier. Ça risquerait de nous rendre malades et il n'y a déjà plus de place dans les hôpitaux.
Et on conclut comme ça ces infos. On se retrouve la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.
Ouais, ciao.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
Merci papa, merci maman. J'entends leur douleur. Je sens que j'en suis très loin. Et c'est que le prénom. Mais on sait que le prénom. Tous les jours sans fin gros, on nique la peau. Police perdu dans la bière comme un apopopoli. La plupart de mes ratons sont alcoopopoliques. Dans ML, y'a bu et survie de la coupe. Dans la branche comme à la coupe. Tous les jours dans la rue avec mes coupes. Les gommes dans les airs tranquilles, j'ai pas fait le coupe. Les je souffle un peu, ils sont veulent jouer, ils sont trop. Les merci papa, merci maman. Merci papa, merci maman. Merci papa, merci maman. Merci, merci papa, merci maman. Merci papa, merci maman. Mélange dans le bac aux denis, bébé. Pelouse de monde, mais gros, combien ça coûte? J'tire deux, trois, la chambre, mon esprit se libère. Faisons clair comme de l'eau de roche, tranquille, ça coûte. Merci, 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 papa, merci, maman. Merci, papa, merci, maman. De m'avoir élevé comme ça. Et maintenant, j'fais les choses comme ça. Plus personne fait les choses comme ça. Il me demande comment je fais pour faire ce que je fais, maison, j'suis dedans le hôtel. Ce que je fais, il me demande comment je fais pour faire ce que je fais, maison, je suis dedans le hôtel. Je fais ce que je fais. Merci papa, merci maman, de m'avoir élevé comme ça. Plus personne fait les choses comme ça. Plus personne fait les choses comme ça. Merci papa, merci maman. Merci papa, merci maman. Merci, merci papa, merci maman. Merci papa, merci maman.
Young home.
Désolé.